debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, déprisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec Debout, un collectif féministe, anticapitaliste et mixte de Nancy. Alors, moi c'est Katia,
Naya,
Isabelle.
Voilà, aujourd'hui nous avons choisi de parler sur la culture du viol. Pour retrouver une culture du viol, il ne faut pas aller très loin, dans des pays d'étrangers avec mariage forcé, etc. Non, une culture du viol existe également chez nous, en France, en Europe et dans tous les pays occidentaux. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup de violences sexuées et où le viol trouve lieu dans toutes les couches sociales. En plus de cela, notre société tolère et souvent promeut même les violences sexuées et les viols. Ils sont même banalisés et les survivantes des viols sont la plupart des temps accusées de porter la faute d'être violées. La culture des viols se trouve partout dans des images produites par la société, comme la publicité, dans des jeux de vidéo, dans des films, de Hollywood, d'horrorfilms, partout, comme entre des individus où une culture est normale que si une femme dit non, que ça veut dire elle veut que être séduite, alors d'être un peu forcée pour enfin d'être violée. Alors, pour nous, c'est important de casser les tabous, de parler sur le viol, parler sur les mauvaises et fausses images qu'on a du viol. Ça veut dire, on aimerait bien vous montrer les mythes des viols, plein de choses qui sont pas vraies, qui circulent dans la société. Alors pourquoi en novembre, pourquoi on a choisi cette émission en novembre? Aussi une petite rappel, bientôt c'est le 25 novembre, la journée internationale pour éliminer de la violence à l'égard des femmes. C'est une date qui était choisie par les Nations Unies en 1981. Alors la journée, il faut la prendre un peu comme une invitation au gouvernement, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernées à organiser à ces jours des activités conçues pour sensibiliser l'opinion au problème. Bon, nous on trouve qu'il y a peu de choses qui se passent vraiment, alors du coup pour nous c'est très important de parler sur les viols, sur la culture des viols aujourd'hui. Alors le 25 novembre, un petit rappel aussi historique. Le 25 novembre a été choisi par les Nations Unies parce que le 25 novembre en 1960, c'est la date où il y a les deux sœurs Mirabal qui ont été assassinées. Les sœurs Mirabal, c'est un exemple historique, personne ne sait en fait qui c'est, mais ce sont deux sœurs extraordinaires qui se sont battues pour l'élimination des violences à l'égard des femmes dans leur pays. C'était la République dominicaine sous la dictature de Rafael Trujillo. Moi, je ne suis pas sûre si je le prononce bien parce que je n'ai jamais fait espagnol, mais bon, alors, sous la dictature des dictateurs Rafael Trujillo, qui a été au pouvoir en République dominicaine de 1930 au 61. Et alors, qu'est-ce qui se passait avec ces deux sœurs, les deux sœurs Mirabal? C'était que cet dictateur, il avait l'habitude de faire des nouvelles maîtresses sans consentement, on peut dire. Et alors, une de ces sœurs, Minerva, a refusé les avances au dictateur pendant deux bals obligatoires dans ce pays. Et alors, du coup, avec tout le moyen, le dictateur, il a fait plein de pression sur les deux sœurs, en torturé par ensemble les pères, etc. Et en fait, Enfin, Minerva, il demandait clémence envers son père, au dictateur. Et Trochilo, il a pris la décision de faire le destin au dé. S'il gagnait, elle pourrait lui demander ce qu'elle voudrait. Et s'il perdrait, elle lui appartiendra. Alors, ça se trouve que pendant ce jeu, Minerva gagne et demande la libération comme étudiaient les trois, qui, il faut le savoir aussi, à cette époque-là, étaient interdites aux femmes. Et elle était priante. Et pendant toute leur vie, les deux sœurs, ils sont censés vraiment lutter contre la dictature et pour les trois des femmes là-bas. Et ils s'étaient très lâchement assassinés le 25 novembre 1960 sur une route de montagne, massacrés à coups de gourdin par la police secrète et jetés dans un ravin. Alors c'est pour cette raison pourquoi aujourd'hui il y a le 25 novembre, une journée internationale pour éliminer la violence à l'égard des femmes. Voilà, alors tout ça c'est des petits rappels historique. Maintenant, on va parler plus précisément, faire un petit rappel, qu'est-ce que nous, on entend sous viol.
Et aussi parler des violences faites aux femmes en général. Hein, le viol, c'est aussi à comprendre comme étant une partie de cet ensemble de violences faites aux femmes, c'est-à-dire parce qu'elles sont femmes, parce que c'est le résultat d'une discrimination des sexes. On en parle hein, depuis les débuts du collectif et ça fait partie des sujets de la Marche mondiale des femmes. Je vais juste vous dire quelques chiffres pour présenter un peu la situation de l'horreur faite aux femmes dans le monde. Dans le monde, une femme sur trois a déjà été victime de violences. En France, une femme décède tous les trois jours sous les coups de son conjoint. 40% des cas de violences conjugales débutent lors de la première grossesse. En dehors des conséquences psychologiques et sociales, les violences faites aux femmes coûtent 3,6 milliards d'euros en France. 7% des femmes seront victimes d'un viol au cours de leur vie. 86% des viols ou tentatives de viol sont perpétrés par des proches. Et près de 130 millions de femmes ont subi des mutilations génitales. Et voilà, c'est juste une partie des violences qui s'est partout dans le monde. Y compris en France et y compris au domicile, y compris des violences sexuées.
Et alors, sinon les viols, en général, les viols est un crime. Et nous, on avait discuté dans notre collectif si on fait vraiment lire aussi les textes des lois sur les viols et on s'est décidé contre. Alors, pour raison, voilà, parce que en fait, la définition légale du viol, elle est absolument que basée, ou vraiment basée sur la pénétration. Et on s'est dit, voilà, bien sûr, c'est une notion qui est importante aussi, mais il y a quelque chose de gênant dans cette définition légale. C'est tout simplement que la pénétration, mais qu'est-ce que ça fait aux victimes? Quelles conséquences pour les victimes? Elle ne prend pas bien en compte. Et alors, du coup, on a aussi une définition qu'on a sortie du viol des témoignages des chattes. Alors, je vais vous lire cette petite définition. C'est un viol, c'est une relation sexuelle non consentie avec ou sans pénétration, avec tes compagnons, avec un inconnu, avec ou sans violence physique. Le viol, ce n'est pas seulement l'image stéréotypée d'un gros méchant qui nous poursuit avec une arme dans une rue sombre, mais c'est aussi un moment où on n'entend pas notre nom.
Là, il y a la définition de Caroline Heras, qui est une sociologue du genre qui travaille sur le viol, qu'on a déjà interviewé dans nos émissions. Sa définition du viol, c'est « toute atteinte à caractère sexuel au corps de l'autre, atteinte non consentie et contrainte », qui permet d'englober plus généralement tous les abus sexuels, agressions sexuelles et viols dont il est question. Pour bien comprendre ce que c'est le viol, on va vous présenter aussi des chiffres. Alors, il faut savoir que vu que c'est une question qui est tellement taboue, tellement peu remontée, c'est toujours une difficulté d'avoir des chiffres. On sait qu'il y a au moins 20 000 cas de viol en France chaque année. et seulement 8000 qui sont recensés officiellement par la justice. En fait, l'estimation serait plutôt de 75 000 viols par an en France, soit 206 par jour. Pour faire un état des lieux de la situation, les victimes, à plus de 50% sont des personnes mineures, 91% sont de sexe féminin. Concernant les lieux des agressions, 68% ont lieu au domicile de la victime ou de l'agresseur, seulement 4% dans la rue, seulement 0,6% dans un parking. Concernant les horaires des agressions, 46% ont lieu de jour. Concernant le profil des agresseurs, 96 à 99% sont de sexe masculin. 74% sont connus de la victime, c'est-à-dire la famille, le conjoint, les amis, les collègues. Les études montrent que la plupart des agressions sont préméditées. Donc c'est une réalité qui vient invalider le fait que le viol correspondrait à une soi-disant pulsion irrépressible et incontrôlable. Souvent, c'est vraiment prémédité. Dans la plupart des cas, les agresseurs sont des personnes qui sont parfaitement intégrées à la société, souvent mariées avec des enfants. Le statut socio-économique n'est pas du tout un facteur déterminant. Parmi ces agresseurs, 17% appartiennent à des professions médicales et paramédicales. 13% exercent les métiers de l'enseignement, de l'animation ou de la petite enfance. 15% ont des responsabilités d'encadrement. 13% exercent les métiers de la loi et de l'ordre. Donc tout ça, ça fait 58% des personnes condamnées. Et 82% des agresseurs n'admettent pas leurs responsabilités. Voilà, aussi pour préciser, il y a aussi des types de viols spécifiques, par exemple. Aux États-Unis, il y a près d'un quart des hommes en prison qui seraient victimes de viols. Concernant les prostituées, la majorité ont été violées dans le cadre de leur activité professionnelle. Dans l'armée, la moitié des femmes militaires sont victimes de harcèlement sexuel et un quart sont victimes de viols, souvent impunis par la justice militaire. Aux États-Unis, 66% des femmes noires ont été abusées sexuellement avant 18 ans. Donc, ce qui montre que les relations n'ont guère changé depuis l'esclavage où on épouse une blanche et puis on viole des femmes noires. Et pour les personnes LGBT, c'est encore plus dur d'en parler. Il y a encore plus un tabou vers le silence.
Tu peux nous faire un rappel LGBT, j'imagine, c'est
lesbienne,
peut-être pas clair.
Lesbienne, gay, bi, trans et queer aussi. Et concernant les lesbiennes, ben, y a aussi ce qu'on appelle le viol correctif, c'est-à-dire des viols qui sont perpétrés contre des lesbiennes pour leur apprendre ce que c'est qu'une relation avec un homme. Quelques précisions aussi au niveau de la justice. La plupart des viols sont ce qu'on appelle déqualifiés, c'est-à-dire que ce ne sont pas... Le viol est un crime et souvent ils sont passés en agression sexuelle. Un viol sur 11 fait l'objet d'une plainte. Théoriquement, les viols sont punis de 15 ans de réclusion criminelle et en fait, moins de 10% des personnes sont condamnées. Et on va préciser aussi que dans la justice française, il y a un délai de prescription de 10 ans. C'est-à-dire que 10 ans après les faits, on ne peut plus porter plainte. Pour des personnes qui ont subi un viol étant mineures, ces 10 ans de prescription sont comptés à partir de la majorité. Et voilà, après ça, aucune poursuite n'est possible. Et pour ce qui est qualifié d'agression sexuelle par la justice, le délai de prescription est de 3 ans. Voilà.
Et alors, pour parler aujourd'hui, il y a aussi, on aimerait bien tout de suite parler aussi, on a choisi quelques termes. Des termes qui sont importants pour nous. Maya, tu vas en parler sur les termes par rapport survivants, victimes, etc.
Alors, dans une démarche féministe, on préfère parler de survivantes de viol que de victimes de viol parce que ça met en avant le fait que la personne va vivre, va pouvoir s'en sortir. Ça redonne une image positive, tandis que victime, c'est un terme qui enferme toujours dans l'agression. Donc nous, on parle de survivante de viol. On parle aussi plutôt de violences sexuées que de violences sexuelles, parce que ce n'est pas de l'ordre de la sexualité, en tout cas pour les survivantes. Et aussi, il y a quelque chose de très important, on a tendance toujours à dire se faire violer. Voilà, c'est pas comme aller chez le coiffeur, non, on est violé, on est victime de viol et on ne se fait pas violer. C'est très important de préciser ces termes. Je voulais parler aussi des conséquences des viols, puisque souvent, c'est des choses qui sont méconnues, en fait. Outre ben, l'acte en lui-même, l'agression en elle-même, les conséquences du viol et des agressions sexuelles sont graves et durables. En fait, c'est comme un handicap à vie qui n'est pas reconnu. De tels traumatismes affectent profondément l'estime de soi et la capacité à vivre. Alors les principales conséquences, c'est le manque de confiance en soi, sentiment de saleté et de honte, des difficultés sexuelles qui fait que la sexualité devient un terrain miné par la mémoire traumatique, des difficultés relationnelles, des difficultés somatiques, des difficultés autour de la maternité, des conduites addictives et d'autodestruction, des difficultés professionnelles, des hospitalisations répétées, une amnésie traumatique et des psychotraumatismes. Tout ce qui est maladie de longue durée, des fatigues, des douleurs chroniques, des troubles digestifs, gynécologiques, immunitaires, ORL, allergiques, des troubles cardiovasculaires et qui peuvent conduire à des suicides. Et outre ces conséquences médicales, les survivantes ont à faire face à des difficultés sociales énormes. Et on aimerait vraiment insister là-dessus pendant notre émission, parce que ça ne fait que rajouter encore aux conséquences qui sont déjà lourdes. Si on prend la thèse donc, de Caroline Herras, qui s'intitule « Le viol, mécanismes sociaux, représentations et expériences, regard sociologique sur un crime de l'intime », elle nous dit que les trajectoires des survivantes sont marquées par de nombreuses expériences de mépris affectant leur construction identitaire. La réserve, le doute, voire la remise en cause de la véracité des propos de la survivante. Le regard social, fréquemment mentionné comme destructeur. Le tabou, l'invisibilité sociale du viol et ses représentations. Tous ces éléments sont autant de réalités auxquelles sont confrontées les victimes.
Oui, ici on va faire une petite pause musicale. Notre chère chanteuse préférée, Anne Sylvestre, elle a fait aussi une chanson très intéressante par rapport à notre thème qui s'appelle « Douce maison ».
C'était une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie. avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec Debout, un collectif féministe, anticapitaliste et mixte de Nancy. Aujourd'hui, on a choisi de parler sur la culture des viols et les viols. Voilà, et on va passer au prochain passage où on va décrypter les mythes sur les viols. Alors, quelle image d'un violeur on a typiquement dans notre société ? On s'imagine que c'est un fou, un monstre, et des hommes en manque sexuel avec des fortes besoins sexuels qui peuvent pas se retenir. Alors, pourquoi cette image ne représente pas la réalité ? Les hommes violeurs sont la plupart du temps des hommes qui ont un lien de confiance déjà avec la personne laquelle ils violent. Ce sont des proches. Alors du coup, c'est pas un homme qui viole une femme dans le noir après la discothèque, je sais pas quoi. Ça peut arriver bien sûr aussi, mais la plupart des temps, les violeurs sont des hommes tout à fait normaux, les maris, les pères, les frères, les voisins. Alors, on a trouvé aussi que ça peut être par exemple étonnant de se retrouver en face d'un garçon de 18 ans, gentil, qui a les cheveux longs, le regard bleu, tout sympathique, et de se rendre compte qu'il a violé une femme et qu'il a tué en même temps. Il y a brouillage d'images. C'est-à-dire qu'on voit un violeur comme un mec soit rustre, soit odieux, soit facho. Dans cette condition, on comprend très bien que c'est un violeur. Mais quand c'est une personne qu'on prend spontanément en sympathie, on ne comprend plus rien. Quand on entend des amis parler des garçons qu'on connaît, des amis intimes, quand ils racontent ce qu'ils ont pu faire, on ne comprend pas non plus. Alors, si on s'imagine un viol, pourquoi les scénarios ne correspondent pas à la réalité ?
Alors, en fait, sur le mythe du viol, on a quatre grandes définitions. Alors, il y a l'image du violeur que forcément, c'est un malade. En fait, les violeurs ne sont pas des malades, c'est monsieur tout le monde en général. Il y a l'idée que...
Il y a l'idée, voilà, que si on imagine un viol la plupart des temps dans la société, on a l'idée que c'est une femme en mini-jupe. Et qu'elle se promène seule dans la rue, et voilà. Et pourquoi ce scénario est faux ? C'est que la plupart des viols se produisent de plus en moins au domicile, dans un entourage de confiance. Voilà. Alors, il y a une petite citation par rapport à un mini-jupe. Voilà, alors, qui disent « La prochaine fois, si un mec me parle des mini-jupes et que c'est ma faute d'être violée, je le casse une marteau sur la tête en disant il a qu'à porter un casque. » Voilà.
Alors, dans les mythes du viol, il y a aussi qu'on nous fait croire que c'est quelque chose de l'ordre du naturel, que ce serait des pulsions naturelles. On a vu que c'était vraiment faux. Et ça, c'est souvent une manière pour déresponsabiliser l'agresseur qui se déresponsabilise déjà très bien tout seul. La société va rajouter une couche encore et ça va servir d'excuse en fait pour ne pas être responsable du viol qu'il a commis. Une autre partie du mythe sur le viol, c'est qu'on dit qu'on peut pas qualifier de viol n'importe quoi, parce qu'un viol, c'est forcément un acte violent commis la nuit. Et donc, c'est une manière de passer sous silence la grande majorité des viols qui sont commis dans un autre contexte. Et tous ces mythes, en fait, sont à mettre aussi en relation avec les mythes sur la violence. Voilà, c'est que ce soit pour les viols ou pour les autres types de violences, il y a toute cette fausse image qui est véhiculée, qui empêche les gens de se rendre compte de la réalité, qui leur permet même quand ils sont face à un cas de, par exemple, de quelqu'un qui va leur raconter ce qui lui est arrivé, ces personnes vont tellement adhérer à cette fausse image du viol qu'elles vont lui expliquer ah ben non c'est pas possible, non c'est pas un viol, ou bien ah ben non c'est forcément c'est toi qui as fait quelque chose. Et c'est ça qui va empêcher qu'on en parle. Sauf que tant qu'on ne peut pas en parler, tant que la victime, la survivante ne peut pas s'exprimer, alors ça va permettre à ces violences de se perpétuer. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir en parler et de pouvoir écouter les survivantes pour que ces violences cessent.
Oui, alors pourquoi les hommes violent-ils ? Là, c'est important de savoir aussi, les femmes ne sont pas violées parce qu'elles sont belles et provocantes, mais parce qu'ils les cherchent, les provoquent, consciemment ou inconsciemment. Ce qui est vraiment très important de savoir, c'est que par rapport aux viols, il n'y a pas un lien entre besoin sexuel, ça veut dire que les hommes ne peuvent pas se retenir parce qu'ils ont des besoins, etc. Il n'y a pas un lien entre besoin sexuel des hommes et le viol. Mais il faut faire un lien entre viol et violence. Et violence, on peut même remplacer par domination. Les hommes violent parce qu'ils peuvent le se permettre.
Oui, le viol, c'est une marque de domination, de puissance collective et individuelle. Et en même temps, c'est un privilège qu'on accorde aux hommes dans leur sexualité.
C'est ça. Alors, par rapport aux mythes sur le viol, ce qui est le plus important pour nous, c'est casser cette image de la femme, que des femmes se font sont violées, pardon. Voilà, parce qu'on ne dit pas se faire violer. Moi, je le fais moi-même. Alors, casser cette image des mini-jupes. Une femme n'est pas violée parce qu'elle porte un mini-jupe. Et les hommes, ils violent pas parce qu'ils ont des besoins sexuels. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et dans ce scénario aussi, sûrement, il y a le viol, moi j'appelle ça des viols spontanés par exemple au parc. Mais la plupart des temps, ce sont des proches qui violent, des personnes avec qui on a un lien de confiance.
Et il faut rappeler aussi que les victimes de viol ont entre 2 ans et 85 ans. Donc, faut voir. Enfin, on n'est pas du tout dans des images stéréotypées. C'est un phénomène massif. Et voilà, c'est quand même difficile d'expliquer avec ce genre d'argument quand on a des violences envers des enfants ou des personnes âgées.
Oui, c'est exact. Alors, surtout par rapport des enfants, l'image des viols des mini-jupes, c'est plus valable. Et comme on avait entendu au début avec les chiffres, ce sont beaucoup des personnes qui avaient un lien éducatif avec des enfants. Je vous rappelle, je pense ça fait aussi un peu parler en France. Il y a quelques années, avec des grands scandales en Allemagne et comme en Irlande, par rapport à l'Église catholique, qu'il y avait beaucoup des viols entre personnes d'Église, des prêtres, je sais pas quoi. Et des enfants. Alors du coup, cette image des viols, ça, des mini-jupes et viols, on voit bien qu'avec l'exemple des enfants, ça ne tient pas debout.
Et le danger, justement, de tout ça, ça va être de permettre aux viols de se perpétuer en les niant ou en les minimisant, en niant complètement le non-consentement de la victime, en tournant toujours les choses autrement, ce qui fait que la victime devient coupable et aussi on va la blâmer et du coup on va toujours trouver des excuses aux agresseurs parce qu'on peut pas imaginer qu'ils ont fait ça et donc les violeurs deviennent finalement les victimes et les personnes violées deviennent les coupables. Et là, on se rend compte qu'il y a un énorme problème et qu'il faut sortir de ça pour sortir des viols et sortir des violences.
Oui, alors ça, c'est en gros sur les mythes sur le viol. On a sûrement oublié de dire encore des choses. Peut-être on revient plus tard encore une fois dessus. Aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir Isabelle avec nous. Isabelle, merci déjà d'avance d'être si courageuse de témoigner avec nous. Parce que, en fait, Isabelle, elle a vécu des choses vraiment pas cool. Et elle va nous parler sur ça, peut-être pas en détail, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement. Ça, c'est pas les choses les plus importantes pour nous. Contrairement à la notion, à la notion légale, par exemple, de qu'est-ce que c'est un viol. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est surtout de savoir, mais comment, avec une mauvaise vécue comme ça, comment elle se débrouille aujourd'hui. Et on va passer, du coup, à cette rubrique témoignage.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec Debout, un collectif féministe anticapitaliste et mixte de Nancy. Et voilà, on est à la rubrique des témoignages. Aujourd'hui, on a avec nous sur antenne Isabelle. Isabelle, peux-tu te présenter ?
Voilà, je m'appelle Isabelle. J'ai 6 ans et je ne porte pas de mini-jupe.
Voilà, alors 6 ans, tu ne portes pas une mini-jupe, mais tu veux nous dire que malgré que tu ne portais pas une mini-jupe, il s'en est arrivé des trucs pas cool.
Ben, des choses qui ne concernent absolument pas les enfants.
Oui.
C'est clair.
Alors Isabelle, qu'est-ce que t'as motivé pour témoigner aujourd'hui avec nous ?
Si cela peut être utile à 1, 2, 3, 10, 100, 100 000 personnes, enfin voilà quoi. Ne pas rester dans ce que vous parliez tout à l'heure. Vous évoquiez le fait que tout ça reste sous silence, et c'est vraiment le cas, la plupart du temps. Et même les personnes qui arrivent à mettre des mots, à déjà se souvenir, à mettre des mots et à alerter ou à demander de l'aide, ces personnes-là, la plupart du temps, réellement, ne sont pas entendues. Alors, il y a ça qui fait que, non seulement pour les personnes, c'est doublement, triplement l'enfer, mais aussi d'un point de vue social, du point de vue de la société, le fait que toutes ces choses-là ne soient pas ou très peu exprimé, montre bien qu'on peut parler malheureusement de culture du viol. Et par rapport à ce que vous avez, la façon dont vous l'avez présenté, je trouve très très juste de parler de survivants ou de survivantes, parce que à travers la planète, le viol, ben oui, c'est une arme de guerre. Et c'est une arme de guerre, pas seulement en temps de guerre, c'est une arme de guerre sociale. Et c'est... je crois que c'est même pire que ce que j'en comprends moi-même.
Alors, en te présentant à tout à l'heure, en fait, t'as déjà dit quel âge tu avais quand tu as été violée. La première fois, c'était quand tu avais 6 ans.
6 ans, oui.
Ouais. Et alors, connaissais-tu ton agresseur ?
Oui, je le connaissais, il me connaissait très bien. Donc quelqu'un de la famille, un oncle.
Oui, du coup, quelqu'un de très proche. Et qu'est-ce que tu peux nous dire ? Quelles conséquences avaient les viols sur ta vie enfant et puis aussi sur la vie adulte ?
Alors en fait, je ne me suis rendu compte de tout ça que bien, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Parce que, enfant, ou pas enfant d'ailleurs, cette violence-là, qui est équivalente à une torture, provoque souvent ce qu'on appelle une amnésie, mais en fait c'est plus que ça, c'est une dissociation de soi-même. La dissociation, c'est un truc qui peut être super grave, qui prend plein de formes différentes. Ça peut aller jusqu'à des personnes qui se retrouvent totalement psychotiques et qui développent plusieurs personnalités, qui sont pas forcément connectées les unes aux autres, parce que quand on prend une bombe dans la gueule, un jour j'ai trouvé une image comme ça, le pare-brise d'une voiture, c'est bien foutu parce que quand une voiture prend un pavé dans le pare-brise se craquelle de partout. Mais il reste malgré tout la plupart du temps entier, voilà, le pare-brise feuilleté. Sauf que une personnalité séparée, elle se retrouve, ça se voit pas. On a toujours une personne qui a l'air entière comme ça en face de soi, mais à l'intérieur, elle est en miettes, elle est explosée. Et du coup, est-ce que chaque morceau peut encore parler au morceau qui est juste à côté? Pas sûr. Ça peut faire des dégâts. Irréversible, ça peut faire des dégâts aussi, espérons-le, réversible, mais c'est l'enfer en fait. C'est pourrir la vie d'une personne en lui disant, en lui ouvrant la porte de l'enfer, permanent.
Et je me rappelle, une fois tu nous as fait aussi une définition, qu'est-ce que c'est pour toi les viols et qu'est-ce que c'est pour toi l'amour? Alors du coup, je trouvais ça avec des très belles images. Tu pourrais nous les redire?
Non. Qu'est-ce que j'ai répondu? Qu'ai-je donc répondu à ce moment-là? Tu as l'air de t'en souvenir.
Oui, alors du coup, ce que j'ai trouvé très beau, j'essaie de les dire aussi beau que toi, parce qu'à ce moment-là, ça m'a très touchée, mais je ne sais pas si, ouais. Si j'arrive de les dire si beau que toi. Alors, tu disais, l'amour, c'est quelque chose comme... qu'il y a une fusion des énergies entre deux personnes et que c'est quelque chose de prendre et de donner, que c'est réciproque et que le viol, c'est pas du tout comme ça. Tu te rappelles?
Oui, je me souviens, oui. Oui, oui. Mais voilà, j'étais partie sur le fait de, voilà, une relation sexuelle, voilà, ou sexuée, puisque entre deux personnes qui s'aiment, normalement, voilà, c'est ça une relation sexuelle. C'est deux personnes qui s'aiment et qui partagent leur amour et qui du coup partagent et font un échange d'énergie réellement, quoi. Et cet échange d'énergie d'ailleurs décuple l'énergie de chacun. Sinon je crois qu'on se... Enfin, c'est l'amour... Pour moi, c'est sur la planète, malgré ce foutoir permanent sur la planète, malgré tout, ça tient toujours debout. Parce que s'il n'y avait pas cet amour-là, voilà. Et par contre, ouais, par contre, bah le viol, c'est pas ça du tout. Le viol, c'est aller piller la demeure de quelqu'un, la demeure sacrée, parce qu'il s'agit du corps et aussi de l'esprit, enfin de l'âme de la personne, du psychisme. Enfin, c'est un tout. Hein. Et c'est un pillage, c'est un meurtre en fait, c'est un crime. Parce que c'est tuer la personne. C'est lui voler toute son énergie.
Oui, voilà, c'était ça par rapport à la définition des viols que tu disais. L'amour, c'est partager son énergie, de donner et prendre et, réciproquement. Et que le viol, c'est le contraire. Tu disais que c'est voler toute son énergie. Et tu disais aussi une autre image, comme rentrer en force dans une maison, de casser en même temps la porte et toutes les fenêtres, et voler tout ce qu'il y a en intérieur.
Oui, voler, détruire, saccager. C'est un énorme saccage, en fait. Mm. Alors après, ben, les personnes, bon, voilà, chacun est différent, selon l'âge, selon la violence aussi... Pendant l'acte, quoi. Mais je pense que de façon générale, voilà, de façon générale, les personnes mettent, quand elles arrivent à se relever, enfin à se reconstruire, elles mettent énormément de temps. C'est très long.
Et c'est tellement violent, ce que tu expliquais, que le cerveau lui-même n'arrive pas à gérer. Et c'est ça qui crée le traumatisme. Et l'amnésie traumatique, ça arrive souvent quand on a vécu ça enfant.
Ouais, en fait, l'événement ne peut pas être intégré parce que c'est d'une telle violence. C'est équivalent à des personnes... Les mémoires traumatiques, il faut savoir, les gens qui se promènent avec des mémoires traumatiques, c'est des gens qui ont vécu des actes de guerre, qui ont vu des bombes exploser, qui ont vu des gens mourir. C'est... voilà, c'est équivalent à ça, en fait. Et donc, en fait, la façon dont ça se passe, c'est... donc, c'est comme c'est totalement invivable, émotionnellement, c'est insupportable, la cervelle disjoncte, ni plus ni moins. Il se passe que, bon, voilà, la gestion des émotions se fait par l'amygdale, et là, l'amygdale, elle ne peut rien gérer du tout. Elle ne peut pas faire le travail d'envoyer ces informations, qui ne sont même plus du coup des informations. Et c'est comme s'il y avait une surcharge électrique, mais tellement puissante, ça disjoncte. Ça disjoncte. Alors donc, souvent, il y a dissociation, c'est-à-dire c'est se déconnecter de soi-même intégralement. Donc, certains appellent ça de l'amnésie. Moi, j'ai plutôt tendance à dire on fout tout ça aux oubliettes parce que de toute façon, on se retrouve dans le noir absolu, dans le néant, mais avec les yeux ouverts. Et cette dissociation permet de ne plus ressentir. Parce que c'est ressentir ça, c'est impossible. C'est pas pour rien que c'est équivalent à des tortures. Ce n'est pas possible. Le corps disjoncte. Il ne peut pas. Il ne peut pas se permettre de vivre l'événement. C'est voilà.
Et à toi, ça t'est arrivé aussi que cet événement,
bien sûr,
s'est tombé dans les oubliettes.
Alors totalement dans les oubliettes. D'autant plus que 6 ans. À 6 ans, aucun gamin de 6 ans n'a conscience. J'avais sans doute déjà accès à l'abstraction, hein, certes, mais un enfant n'a ni les mots, ni même la conscience, une vision de ça, de ce que ça peut être, de ce que ça peut représenter. Je dis ça. Voilà, c'est terrible. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de décision à prendre. C'est tellement violent que il n'y a aucun choix. Il y a juste le choix de la survie. Le corps est programmé pour essayer de se protéger, de survivre. Et là, il faut qu'il se protège de lui-même. Voilà, de ce qu'il ressent lui-même. Donc, c'est disjonctage. Et puis. Et de toute façon, ça ne peut pas s'être produit puisque il n'y a pas le moyen d'un point de vue mécanique, hein, d'un point de vue vraiment corporel, chimique, de pouvoir intégrer l'expérience.
Et alors, t'as pu te rappeler aujourd'hui, en fait, parce que voilà. Vu que tu disais, ça veut dire qu'il y avait un grand, grand travail personnel pour que tu aies pu te rappeler, si je comprends
alors,
bien.
Ouais, non. En fait, non. Avant le grand, grand travail personnel, il y a eu plus de... Je ne suis pas bonne en calcul, mais il y a eu quelques temps de latence après, dans l'enfance. Parce que le problème, c'est qu'en plus, ça s'est reproduit avec quelqu'un d'autre et pendant quelques... plusieurs fois.
Comme souvent.
Voilà, comme très souvent. Et il y a eu des temps plus calmes, mais après, arrivé à l'âge adulte, ce qui s'est produit avant de pouvoir commencer un travail, c'était l'enfer au quotidien. Alors avec absolument pas conscience de comment se fait-il que je dysfonctionne à ce point-là. Et puis alors à tous les niveaux, presque tous les niveaux, je dis presque parce qu'il y a des gens, je ne l'ai jamais fait, mais il y a des gens qui se foutent en l'air, parce qu'on ne peut plus se supporter soi-même, dans ce dysfonctionnement perpétuel et permanent. C'est, C'est une destruction complète de la personne.
Oui.
C'est pas autre chose. Donc du coup, qu'est-ce qui m'a permis de me souvenir que ça puisse remonter à la surface? C'est quelques petits flashs, quelques bribes de souvenirs, d'images, de rêves. Enfin, c'était plutôt des morceaux de cauchemar que j'ai fait pendant très longtemps. Et donc, je me suis souvenue parce que je les ai fait pendant très longtemps, déjà quand j'étais enfant, que je n'ai pu comprendre que par la suite, parce que ces morceaux d'images et aussi de comportements, mais je les ai associés que bien plus tard, c'est comme si j'avais eu, à un moment donné, suffisamment de pièces du puzzle pour pouvoir être en capacité de reformer l'image complète, le tableau final. Enfin, voilà. Mais ça m'a pris.
Ça a pris plusieurs dizaines d'années, en fait.
Ça m'a pris plusieurs dizaines d'années. C'est pas encore fini. Et ça m'a pris plusieurs dizaines d'années. D'années d'enfer. Parce que les choses se reproduisent. Alors, quelque part, la vie est bien foutue. Le corps aussi. La vie est bien foutue, quelque part, parce que ça se reproduit peut-être pour... que ça puisse se revivre avec d'autres moyens, d'autres équipements, on va dire. Hein, pas les équipements de la gamine de 6 ans qui n'a pas de jupe. Courte ou longue, peu importe. D'ailleurs, je n'en mets plus. Mais le problème, c'est que, ces équipements-là qui permettraient, en fait, de pouvoir affronter le truc, de reprendre conscience, juste de maîtriser un peu quelque chose. Maîtriser le truc. C'est ce qui est paradoxal, parce qu'on ne maîtrise rien du tout. Hein. C'est une agression. C'est à tel point que, en fait, cette violence-là fait qu'on n'est jamais encore moins équipé que qui que ce soit. Mmh. Et donc ça va se reproduire indéfiniment, et c'est une horreur.
Oui. Malheureusement, les temps coulent vite. Ça nous a donné une petite impression. Qu'est-ce que peuvent être les conséquences d'un viol, surtout de l'enfance, où c'est extrêmement... À tous les âges, mais... Surtout, c'est cette grande problématique, comme tu disais, pas d'être équipé. Avec 6 ans, on ne peut pas être équipé. Que ça tombe de les oubliettes.
Personne. C'est pas possible. C'est pas imaginable, c'est pas pensable.
Oui, c'est clair.
Voilà.
C'est sûr aussi. Et on va continuer de travailler très probablement avec toi, parce qu'on a décidé de faire une 10e émission sur le viol. Aujourd'hui, le temps est fini par rapport aux témoignages, mais on va sûrement avoir éventuellement des écrits ou même peut-être sur antenne de travailler avec toi sur cette thématique qui touche beaucoup. Et du coup, pour la fin, on va passer à la rubrique « Une féministe, c'est quoi ?»
Alors, être féministe, c'est aussi se rendre compte que... parce que souvent, on croit que ce qui nous arrive, c'est quelque chose d'individuel, qu'on va vivre, qu'on va intérioriser, on va croire que c'est soi le problème, etc. Et quand on se rend compte que les autres personnes autour vivent les mêmes difficultés, que ces violences, elles sont ciblées ou bien qu'elles sont faites par dans la reproduction de schémas sociaux, là on se rend compte que c'est pas un problème individuel. Là on se rend compte que c'est un problème collectif, on se rend compte que c'est un problème de société. Et être féministe, c'est ça aussi, se rendre compte que le vécu d'une femme, c'est aussi le vécu de toutes les autres femmes partout dans le monde, d'une situation qui se répète. Et c'est important de prendre en compte la dimension sociale. Voilà, pour nous, c'est ça. C'est ça aussi, être féministe.
Oui. Voilà, c'est ça. C'était ça notre émission sur la culture des viols et sur les viols tout court. On va passer vite fait aussi à la rubrique d'actualité. On a envie de vous partager certains événements qui sont très prochainement. Alors, premièrement, il y a un événement à Verdun. C'est le samedi 14 novembre. Il y a malheureusement un nouveau local des nazis, qui sont des Hammerskins, qui sont très dangereux. Et alors du coup, il y a une manifestation, il y a même des bus qui sont organisés pour y aller. Voilà, alors du coup, si vous avez envie de manifester avec nous et plein d'autres collectifs et organisations de Nancy, vous pouvez nous rejoindre pour aller les 14 novembre à Verdun pour manifester contre les Hammerskins.
Et directement après, vous pouvez aller à la Maison de Bure pour être sur place pour le lendemain où il y a un semi-collectif qui est organisé à partir de 14h à Saudron, à côté de Bure. Donc pour occuper et cultiver les terres qui sont actuellement ravagées par l'Agence nationale d'enfouissement des déchets radioactifs qui nous prépare une poubelle nucléaire en Lorraine. Donc le 15 novembre à 14h à Saudron. Et toujours dans le cadre donc, du mois de novembre pour l'élimination des violences faites aux femmes, nous organisons un week-end féministe à la maison de Bure, la maison de résistance à la poubelle nucléaire, avec le samedi 21 novembre de 13h à 17h un atelier d'autodéfense pour femmes. À 19h30, une lecture des monologues du vagin et autres témoignages. Et le dimanche après-midi, deux projections, le clitoris, ce cher inconnu. C'est important de pouvoir parler aussi du plaisir féminin et de ce qui empêche le plaisir. Et aussi une projection de Tomboy, qui est un excellent film et ben pour parler de ce que c'est le genre et les différences de traitement entre les filles et les garçons. Donc le week-end du 21-22 novembre à Bure.
Bah, merci beaucoup et on vous dit à bientôt. Et pour changer, en finir cette émission qui est quand même un thème très touchant et émouvant, avec une chanson qui fait plutôt bien rire, Love Your Vagina. À bientôt.
À bientôt.
Slut, your secret little honeypot. Love your Mary Lou, your vajoujou, your little man in a canoe. Your naughty bits, your peachy lips, that little thing between your hips. Love, love, love your vagina, that important place inside ya. Love, love, love your vagina, love that special place inside. Love your fatty snatch, your pleasure patch, your bouncing baby escape hatch, your little girl, your frilly whirl, your precious hidden oyster pearl, your velvet locket, otter's pocket, your supersonic rocket socket. Love, love, love your vagina, that important place inside ya. Love, love, love your vagina, love that special place inside. Coochie majesty, cherry blossom canopy, woolen chuff, ginger tuft, little kitten mitten muff, lickety split, whiskered biscuit. Downtown dining and entertainment district. Love, love, love your vagina, that important place inside ya. Love, love, love your vagina,
love that special.
Your tutu, my foo-foo, my new-new, my mincy-moo, Lulu, my pingu.